Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sermon facile sur Dieu et l'argent, sermon facile sur le détachement, et plus particulièrement pour vous solliciter dans la quête. Alors, la particularité de la paroisse, c'est qu'il y a deux quêtes. On ne comprend pas toujours. La première, c'est la quête ordinaire. Et la deuxième, c'est pour une quête d'intention. Alors on demande de faire un parcours différent pour que vous ne soyez pas sollicité dans la seconde qui suit. C'est une deuxième quête qui est une coutume que j'ai bien évidemment adoptée pour une intention particulière. Cette intention aujourd'hui, c'est d'aider des personnes qui voudraient venir à Compiègne, de garder un coup bas pour cette sortie. C'est pour, plus particulièrement pour les chaises ou pour remplacer les lampes, pour qu'il y ait une intention plus particulière. Et donc de vous soutirer de l'argent. Et il est normal que Jésus lui-même nous dise d'être détaché pour que pendant des siècles, on vous donniez plus d'argent aux prêtres pour qu'ils puissent manger. Et puis qu'ils puissent être bien à l'aise, avoir des grands appartements, pendant que vous, eh bien, vous allez respecter ce que saint Paul vous demande sur la chasteté et dans le mariage, dans le célibat, et ainsi d'user du mariage et de la sexualité humaine d'une manière naturelle et d'avoir beaucoup d'enfants. Et cela, on le reproche à l'Église encore maintenant où on veut la salir, si ce n'est la détruire, puisqu'à un moment donné, je ne pourrais pas sortir dans la rue sans être insulté, d'être un pervers à moitié fou qui se jette sur les mineurs. Mais voyez-vous, malgré cette atmosphère délirante, l'Église maintiendra sa parole. Sa parole qui correspond aux trois conseils évangéliques que suivent des moines. Vous aurez remarqué qu'il y a de moins en moins de vocations sacerdotales, mais nous remarquons moins qu'il y a de moins en moins de vocations religieuses également. Parce que accomplir jusqu'au bout ce que dit notre Seigneur, c'est-à-dire ne pas avoir son vêtement comme une carmélite ou comme un capucin, dépendre des autres pour manger, comme normalement tous les religieux, et être dans l'obéissance, tout cela est très pesant à notre nature humaine, mais nous permet de vivre d'une manière très confiante notre vie terrestre. Et c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, lorsque il y a des récits comme celui de Saint Dominique ne trouvait plus de quoi nourrir sa communauté dans un couvent, une trentaine de moines. Arrive le soir à nouveau et il n'y a toujours rien. Il envoie deux moines quêter et ils ne reçoivent qu'un seul pain. Un pauvre vient aborder ces deux dominicains et leur demande l'aumône. Et comme avec un seul pain, de toute façon, il n'allait pas nourrir une trentaine de moines, il lui donne le pain. Et quand ils reviennent au couvent, ils disent « on a eu un pain, mais on l'a donné de toute façon ». Et saint Dominique leur demande de préparer le réfectoire. Mais comme il n'y a rien à manger, ils rechignent. Alors ils demandent à un troisième moine de présenter les nappes, enfin de sortir des nappes et des assiettes. En bois peut-être, mais des assiettes. Et voilà que deux jeunes hommes arrivent avec des corbeilles de pain et distribuent les pains à chaque moine. Et ils disparaissent. Alors saint Dominique dit, maintenant que Dieu nous a donné à manger, préparons les verres pour boire. On installe les verres et voilà que les deux jeunes gens reviennent et servent du vin dans des petits tonneaux. Et d'ailleurs, ce vin était délicieux, créé directement par Dieu. Il était peut-être du même goût que celui de Cana. Et ils garderont les restes des pains et du vin pendant 2 jours, et ensuite le distribueront. Alors ce miracle illustre parfaitement l'évangile de ce soir, et illustre la vie religieuse, la vie franciscaine, par exemple. Mais cela nous semble trop vertigineux. D'autant plus que, justement, on veut faire taire l'Église sur sa vie exemplaire, puisqu'il n'est plus possible d'être pauvre, même d'une pauvreté volontaire, et il n'est plus possible d'être chaste. Taisez-vous, puisque vous avez parmi vous des criminels. Mais nous n'allons pas nous taire, parce que ce n'est pas l'Église ni les prêtres qui font tous les sites pornographiques d'Internet. Ce n'est pas nous qui faisons les programmes d'éducation sexuelle pour les maternelles et pour les primaires. Je ne vous parle même pas du collège et du lycée, qui touchent des enfants à des âges particulièrement innocents avant que vers 8-10 ans, ils aillent eux-mêmes sur Internet. Si ce n'est pas un abus sur des âmes, alors qu'est-ce que c'est? Et c'est même institutionnel. Donc l'Église ne se taira jamais. D'autant plus que, voyez-vous, cette vie humaine, elle est à la fois justement par ce corps, et comme le dit saint Paul, nous avons un corps, nous avons un esprit. Ce corps, il faut le nourrir, il faut le vêtir, mais il faut aussi qu'il vive dans la vérité. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons pas de dire, sans puritanisme et sans débauche, qu'il faut faire tous ses efforts pour contenir son corps, même si cela est difficile. Oh, vous êtes des hypocrites et vous êtes des puritains. Eh bien, non, nous le dirons et nous le dirons toujours, parce que la vie humaine, elle est faite de cette relation spirituelle. En effet, nous ne sommes pas là pour avoir des enfants, nous sommes là pour avoir des êtres à aimer, à éduquer et à aimer. Et finalement, malgré toute la propagande et les caricatures, les enfants sont aimés par leurs parents, ils sont éduqués par leurs parents. Et tout cela participe d'une propagande contre justement la providence divine. Mais puisque nous avons trouvé le bonheur en trichant systématiquement dans la vie de l'homme et de la femme, comme nous avons trouvé le bonheur sans le mariage, dans la séparation, dans le concubinage, dans la liberté, dans l'absence de promesses, dans l'absence d'engagement, il est quand même étrange qu'une telle intelligence et un tel épanouissement se trouvent dans des pays qui meurent. Des pays qui n'ont plus d'enfants, des pays où les couples se séparent, ne savent plus se pardonner, n'ont plus aucune vertu, ou même arrivent à se séparer avec le sourire, avec, en consentement mutuel, mais avec toujours quand même un morceau du cœur qui est arraché, surtout pour les enfants de ce premier lit, de ce deuxième lit, voire de ce troisième lit. Et on nous promet que c'est heureux, et on nous promet que c'est le bonheur. Eh bien, c'est faux, et on le sait très bien. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique ne cessera jamais de dire aux enfants, aux adolescents, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, aux hommes, aux femmes, de vivre dans la chasteté de leur état, d'être dans une authenticité et une vérité. Alors, est-ce une humiliation? Est-il vraiment une honte absolue de chuter dans ce désir d'authenticité et de pureté qui fait que l'homme et la femme veulent fonder une famille légitime? La confession peut être parfois humiliante, alors qu'elle devrait être une prière, et elle accompagne justement ceux qui, au début de leur vie sensuelle, sont perturbés. Et ce n'est pas par voyeurisme que les adultes, que les prêtres, mais que les pères et les mères disent à leurs enfants d'être plus forts, pour être plus fidèles un jour, pour ne pas suivre le courant. Alors, cela, l'Église le dira toujours. Et elle le dira avec la chasteté. Elle le dira aussi avec l'esprit de pauvreté, mais encore faut-il le vivre, et on voit bien que des évêques, des prêtres, des jésuites, des dominicains, des franciscains, moins quand même, ne vivent pas selon cette pauvreté. Et c'était cette exemplarité qui permettait à des couples d'entendre en vérité, si vous avez 5 enfants, si vous avez 7 enfants, si vous avez 12 enfants, vivez-le. Peut-être ne pourrez-vous plus vivre à Paris. Ça, c'est probable. Mais qu'est-ce qu'il est préférable? Oui, mais on ne trouvera pas de métier en province. Mais c'est un véritable combat. Et alors, voyez-vous, c'est là que se trouve la limite à laquelle je devrais m'arrêter, c'est la politique familiale d'un État et d'une société. Et le fait même de considérer qu'il y a trop de monde sur Terre. Eh bien, pourtant, malgré toute cette religion de la Terre et de Gaïa, c'est bien parce que nous ne faisons aucune confiance en la Providence et que nous n'avons pas d'hommes et de femmes dans un mariage avec les enfants, que nous sommes dans des cultures de concubinage ou dans des religions austères de répudiation et de polygamie, nous n'avons pas cet équilibre qui faisait l'expansion de pays, de villes, et qui pouvait trouver sa nourriture. On vous fait croire qu'on n'aura plus assez pour manger, eh bien, avant que la terre ne puisse plus produire ni d'eau, ni de nourriture, et que nous mourions de faim parce que nous aurions trop de familles et trop d'enfants, c'est de la pure propagande. Au XXe siècle, il y a eu 600 000 morts par catastrophe naturelle et 230 millions de morts par la guerre. Les hommes sont les causes des famines. Les hommes de 2018 peuvent assurer un partage qui permettrait d'éviter ces déséquilibres, ces haines, ces xénophobies, ces migrations incontrôlées qui peuvent provoquer un tel rejet des uns des autres que l'on oublie de développer les pays, les familles, les villages, les villes, pour que le noyau familial existe, que des bassins d'emploi existent. Alors j'ai glissé, je suis allé presque en politique. Revenons à notre Seigneur Jésus, qui nous dit bien que nous ne sommes pas des fruits du hasard, du temps, de milliards d'années et de la sélection naturelle, que nous sommes issus d'un être intelligent qui a voulu nous donner l'intelligence et la volonté des anges et leur liberté, animant un corps animal. Les uns se reproduisent, mais cette reproduction ne peut être faite que dans l'amour, un amour spirituel qui l'emportera toujours, car Dieu ne nous a donné une limite. Nous ne pouvons pas vivre immortels à cause du péché qui a fait entrer la maladie et la mort dans le monde. Notre capacité de faire un mal profond est limitée par la mort. Les justes et les petits bébés, comme les monstres et les criminels, sont arrêtés par la mort. Les uns pour une récompense éternelle, les autres pour une condamnation éternelle. Et nous sommes ici pour progresser ensemble et nous aimer les uns et les autres. Ça nous semble un peu étrange qu'il y ait deux vies, la vie terrestre et puis la vie récompensée après la mort corporelle. Si cela peut réduire le décalage, dites-vous bien que dans la foi chrétienne, il y a une réponse non seulement à la mort, mais aussi par la résurrection, une nouvelle vie avec notre corps. Nous ne sommes pas des anges. Et quand nous ressusciterons, saint Paul nous dit bien, le Christ nous dit bien, que nous ne savons pas quelle sera exactement notre vie corporelle, puisqu'il n'y aura plus de mariage, mais nous aurons un vrai corps. Ceux qui auront été malades ressusciteront guéris. Ceux qui sont morts très âgés ressusciteront dans un corps nouveau. Mais pourquoi donc ? Parce que Dieu s'est fait homme et que Jésus est vraiment notre frère aîné. Que la Vierge Marie est une vraie femme qui a eu un véritable enfant et que Dieu aime la nature humaine. Donc il aime notre corps aussi, il aime aussi notre sexualité, il aime le mariage, il aime les enfants. Mais il nous promet qu'il y aura quelque chose qui dépassera notre sensualité et que cette capacité d'aimer dans le temps de notre nature humaine s'épanouira à la résurrection des corps. Nous le voyons bien. Nous voyons des enfants mourir. Nous voyons nos frères, nos sœurs mourir. Nous voyons nos parents mourir. Ce n'est pas possible que nous mourions comme des moustiques ou des pigeons ou des chats ou des chiens ou des chevaux. Oui, il y a une promesse de vie d'un être tout-puissant qui n'est pas d'une religion inconnue, mais de la religion d'un Père, de la religion de sa parole, de son Fils, dans son amour éternel, peuplé de tant d'amis, de tant de saints et de saintes, connus et inconnus, avec même cette belle présence d'une femme, d'une mère, la Vierge Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.